L'instant, il est 10h10 ici, c'est Juan Gomez que vous retrouvez.
Merci. À tout à l'heure, Michael Ponge. Reste avec nous, RFI vous donne la parole.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient, vous nous appelez, vous vous exprimez. Ce matin, nous jouerons les prolongations après la victoire hier soir de l'équipe de France 5-2 face à l'Islande. La France qui, depuis le début de l'Euro, était irrégulière, voire même inquiétante. Elle nous a enfin offert hier soir un festival de buts, dont 4 rien qu'en première mi-temps. Alors avez-vous pris du plaisir à regarder cette équipe de France? Comment les Bleus vont-ils maintenant aborder la demi-finale jeudi contre l'Allemagne? L'Allemagne championne du monde. Vos réactions nous intéresse, vous nous rejoignez ici à Paris et nous attendons également vos commentaires sur l'autre demi-finale, Portugal-Pays de Galles, le Portugal dont la qualification tient vraiment du miracle et le Pays de Galles qui est vraiment la vraie surprise de ce tournoi. On vous attend donc au standard 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité et encore des questions ce matin sur les conséquences du Brexit 10 jours après le référendum des Britanniques. Bonjour Delvy.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Pointe-Noire au Congo, on vous écoute.
En effet, le Royaume-Uni vient de claquer la porte à l'Union Européenne. Comment va se régler le divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni? Et à quand sera-t-il effectif?
Ah, bonne question. C'est le grand suspense, la grande interrogation. C'est vrai qu'il va falloir organiser ce divorce. Alors, on vous parle de cet article 50 depuis quelques jours, article qui définit donc cette procédure de séparation. Encore faut-il qu'on en sache davantage sur les moyens. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Delvy, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant des RFI à Bruxelles. Comment cette procédure de séparation sera-t-elle gérée?
Il faut dire qu'il y a d'abord les textes qui accordent à tout pays membre de l'UE la possibilité de quitter l'Union. Pour cela, il est obligatoire que le gouvernement de cet État notifie au président du Conseil européen, donc Donald Tusk en ce moment, son intention de procéder à ce renoncement. Ensuite s'enclenche le célèbre article 50 du traité de Lisbonne qui dispose que 2 années de négociations sont nécessaires pour détricoter en quelque sorte les liens techniques et juridiques entre ce pays démissionnaire et l'Union européenne. Enfin, voilà tout ce que disent les textes. Mais on s'en doute, la réalité politique est bien plus complexe, à la fois parce que c'est la première fois que les 28 sont confrontés évidemment à ce genre de situation, et parce que la classe politique britannique, on le sait, est actuellement en proie au chaos dont on peut penser qu'il durera encore au moins jusqu'à l'automne. Et puis, rappelons-le, Juan, personne à Londres n'a encore notifié quoi que ce soit à Bruxelles, et donc, paradoxalement, mais tout à fait logiquement, au moment où nous parlons, le Royaume-Uni est encore membre de plein exercice de l'Union européenne, avec les droits et les obligations que cela entraîne. Alors, sur le fond de votre question, Delvy, pour résumer, si les Britanniques finissent par activer l'article 50, et je ne vous cacherai pas que le doute commence à circuler à ce sujet, alors, ils n'auront que 2 options. La première consiste à retourner dans le giron de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, aux côtés de l'Islande, de la Suisse, de la Norvège et du Liechtenstein. Mais ces pays, à l'exception de l'Islande, ont tous un accord d'accès au marché intérieur de l'Union européenne, ce qui implique le respect de la libre circulation, notamment des personnes. Le Royaume-Uni se trouverait alors dans la situation inconfortable d'avoir à se soumettre à tous les règlements de l'UE en n'ayant plus voix au chapitre pour les amender. L'autre option, c'est que Londres n'ait plus aucun lien contraignant avec le reste de l'Europe, avec qui il traiterait selon les règles minimums de l'Organisation mondiale du commerce.
Ouais, en tout cas, pour l'instant, on le voit bien, les Britanniques veulent gagner du temps. Le Royaume-Uni souhaite déclencher cette fameuse procédure à l'automne, puisque David Cameron a été très clair, il laisse le soin à son successeur de gérer tout cela avec les 27 chefs d'État européens, qui la semaine dernière d'ailleurs se sont montrés assez exigeants. Ce qu'ils ont dit en substance lors de cette réunion, de ce sommet à Bruxelles, c'est que cet article 50 doit être activé le plus rapidement possible. Delvy, vous avez une autre question?
Oui, après le Brexit, que vont devenir les parlementaires européens britannique?
Ah, que vont devenir les parlementaires, les fonctionnaires européens britanniques? C'est une vraie question, Quentin Dickinson, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans les couloirs du Parlement ou de la Commission européenne de discuter avec certains des Britanniques qui travaillent sur place. Ce qui ressort en tout cas, c'est qu'ils sont inquiets sur leur avenir.
Oui, ils sont inquiets. On les comprend. Pardon, même si Jean-Claude Juncker s'est employé dernièrement à les rassurer en leur envoyant une lettre circulaire disant qu'il faisait partie de la Commission européenne pour toute éternité. Il a même ajouté, quand on arrive dans la Commission européenne, dans les institutions européennes, on laisse sa nationalité sur le paillasson devant la porte. Alors, ce qu'il faut dire, et merci à Delvy d'avoir une pensée pour ces fonctionnaires et agents, il faut faire la différence entre ces fonctionnaires et agents des institutions et des agences de l'UE, d'une part, et d'autre part, les mandats politiques exercés par des Britanniques à la tête de différentes organisations européennes. Alors, autant l'on comprend la récente démission du commissaire européen britannique, Lord Hill, et que l'on attend une attitude semblable ici, ou au moins une forme de mise en réserve de la part des députés européens britanniques et des membres britanniques du comité des régions et du comité économique et social européen, autant les fonctionnaires britanniques sont appelés à rester jusqu'à leur départ à la retraite, ou éventuellement de bénéficier d'un départ anticipé négocié. En tout cas, il se dit clairement ici que leur engagement et leur loyauté ne sauraient être mis en cause.
Merci beaucoup Quentin Dickinson d'avoir été avec nous ce matin en direct de Bruxelles. On remercie évidemment Delvy qui nous appelait de Pointe-Noire. On prendra une autre question sur les conséquences du Brexit dans un instant. Mais d'abord, intéressons-nous à un tout autre sujet, les relations entre la Turquie et la Russie. Vous savez que les relations étaient exécrables ces derniers mois. Désormais, tout semble aller pour le mieux. En tout cas, c'est ce que laissent croire les Russes et les Turcs. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Libreville au Gabon.
Oui, exactement.
Alors, vous écoute. Hein.
Oui Juan, j'ai une question à un volet sur la relation turco-russe. Le président Recep Tayyip Erdogan a présenté des excuses suite à l'avion russe abattu en novembre 2015. Suite à cela, le président Poutine a ordonné un processus de normalisation entre les deux États. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce revirement, après moult refus de Recep Tayyip Erdogan. De même, la Turquie a décidé de compenser la Russie financièrement et est revenue sur ses propos. Qu'en est-il ?
Alors, Dorothée Schmid est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales. On se souvient évidemment du coup de colère de Vladimir Poutine après que un avion turc ait abattu un bombardier russe. C'était en novembre dernier dans le ciel syrien. Le pilote russe est d'ailleurs mort lors de cet incident. Pourquoi le président Erdogan, le président turc, a-t-il attendu 7 mois pour présenter ses excuses à la Russie ?
Bon, c'est probablement dû aux dynamiques internes de la Turquie. En réalité, la brouille russo-turque est le résultat sans doute involontaire d'une espèce de série d'erreurs des deux côtés. D'un côté, les Russes qui sont allés chatouiller d'un peu trop près les Turcs sur leur espace aérien alors qu'on les avait prévenus que ça prêterait à conséquence. Et les Turcs qui ont abattu un petit peu trop rapidement un avion russe au point d'affoler complètement leurs partenaires de l'OTAN, puisqu'on allait se retrouver dans un antagonisme est-ouest classique à cause de la crise syrienne indirectement. À partir de là, tout s'est enchaîné très rapidement. On s'est aperçu que dans le rapport de force russo-turc, c'était les Russes qui dominaient totalement, à la fois du point de vue stratégique militaire, du point de vue de la puissance de projection politique, je dirais, de l'écoute à l'extérieur, et puis aussi du point de vue économique. C'est un partenaire économique très important pour la Turquie, la Russie, parce qu'elle fournit les 2/3 du gaz dont la Turquie a besoin pour faire croître une économie très très énergivore, qui est encore en phase de rattrapage, qui est une économie qui est en fait en train de sortir de la phase émergente pour devenir une vraie économie industrialisée, mais qui est encore pas du tout rationnelle du point de vue énergétique.
Et suite à cet incident en novembre dernier, la Russie a adopté quand même des mesures, des sanctions économiques contre la Turquie, particulièrement strictes, embargo sur l'importation des fruits et des légumes turcs, interdiction pour les employeurs russes d'embaucher des travailleurs turcs, visa obligatoire pour tous les Turcs qui souhaitent se rendre en Russie. C'est donc quoi ? C'est la réelle politique qui a fini par convaincre le président Erdogan qu'il faut finalement renouer le contact avec Moscou ?
Alors, Tayyip Erdogan, d'une part, s'est débarrassé récemment, comme on l'a vu, de son ancien ministre des Affaires étrangères devenu Premier ministre, Ahmet Davutoğlu, qui était l'artisan de sa politique étrangère. Donc on est aujourd'hui dans une espèce de phase de remise à jour de la politique étrangère turque, où tout est en train de changer. Il y a aussi la réconciliation avec Israël qui est advenue juste avant la réconciliation avec la Russie. Donc on sent que les fondamentaux de la politique étrangère turque sont en train d'être remaniés. Et la réconciliation avec la Russie était absolument indispensable, à la fois du point de vue stratégique, parce que la Turquie ne peut pas se permettre d'être un concurrent de puissance de la Russie dans la région, et du point de vue économique, parce que l'économie turque ne va pas si bien que on veut bien nous le dire. Et on sait très bien qu'on a notamment beaucoup parlé de la crise du tourisme en Turquie, qui devient de plus en plus grave, là on est en pleine saison. C'est quand même plusieurs points du PNB turc qui sont en jeu. Et là, la première mesure symbolique, mais qui a quand même son importance, que Vladimir Poutine a prise, c'est de lever les interdictions de voyage vers la Turquie.
Frédéric, qui est toujours en ligne de Libreville, nous demandait, dans un premier temps, la Turquie se disait prête à indemniser la Russie. Ensuite, elle est revenue sur cette décision. Qu'en est-il finalement ?
Alors, on ne sait pas très bien, parce que la communication turque, elle est extrêmement contradictoire. De toute façon, on a l'impression qu'on assiste à des hauts et des bas en ce moment dans la gestion du pouvoir en Turquie, qui deviennent de plus en plus difficiles à décrypter, puisque vous savez qu'il y a à la fois le blackout sur l'information, beaucoup d'incidents. Il y a quand même eu cet énorme attentat à Istanbul la semaine dernière. Donc, finalement, le gouvernement émet beaucoup de messages contradictoires. Mais ça rappelle un peu le processus de réconciliation avec Israël, où la question des réparations financières était une des questions en jeu. Il y a toujours la problématique des excuses. Donc là, on sait que Tayyip Erdogan a adressé une lettre d'excuses à Vladimir Poutine. Ça, c'est le point symbolique le plus important. Maintenant, la question des réparations financières, c'est vécu comme une deuxième humiliation, je dirais. C'est-à-dire que avoir déjà admis que c'était une erreur d'abattre l'avion russe, c'est déjà extrêmement important pour les Turcs. Et maintenant, Tayyip Erdogan, qui en plus récemment a obtenu, vous savez, une grosse compensation financière des Européens pour gérer la crise des réfugiés, devrait faire admettre à son opinion publique qu'il est prêt à payer les Russes pour son erreur. Mmh. C'est très compliqué à lui pour gérer en interne.
Ouais, en tout cas, ce que lui demande Moscou, c'est des indemnités pour la famille du pilote tué en novembre dernier. Frédéric, à Libreville, on a répondu à vos deux questions.
Oui, Juan, je voudrais juste faire un coucou à ces deux RFI.
Très bien, merci. Sigrid qui est au standard et qui réceptionne évidemment toutes vos questions. Merci pour elle, Frédéric, bonne journée à Libreville. Et on remercie Dorothée Schmid, spécialiste de la Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales. On revient aux conséquences du Brexit. Je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de questions. Kaba nous a envoyé un courrier électronique, il est à Conakry en Guinée. Nous l'avons donc rappelé, bonjour Kaba.
Oui, bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Après avoir mené le camp du Brexit à la victoire, l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, a préféré ne pas postuler au poste de Premier ministre. Alors, pourquoi s'est-il rétracté alors qu'il était favori à la succession de David Cameron ?
Ah, bonne question, effectivement. C'est vrai qu'il était le grand favori hein, pour succéder à David Cameron. Coup de théâtre la semaine dernière. Boris Johnson a décidé de jeter l'éponge. Philippe Marlière est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste de la Grande-Bretagne, professeur en sciences politiques à l'Université College of London. Comment expliquer le retrait de Boris Johnson ?
Eh bien, c'est à la suite d'un coup de théâtre, un rebondissement tout à fait de dernière minute, puisque l'un de ses alliés pendant la campagne qui a mené au Brexit, Michael Gove, l'a lâché tout simplement. L'a lâché, c'est-à-dire qu'il était l'un de ses soutiens. Non seulement il l'a lâché, mais à la toute dernière minute, donc il y avait un deadline pour la présentation des candidatures, il s'est lui-même présenté. Donc, et il s'est présenté d'une manière qui a complètement, réduit à néant tout espoir pour Johnson, puisque il a assorti sa propre candidature, qui était tout à fait inattendue, d'une critique extrêmement féroce contre Johnson, notamment sa capacité à gouverner le pays, à avoir une stature d'homme d'État, etc., etc. Donc, effectivement, Johnson a dû, à la toute dernière minute, se rétracter, et quand il est paru devant les médias, alors que tout le monde attendait qu'il se déclare, eh bien, il a tout simplement dit, je suis venu vous dire que je ne suis pas en mesure de me présenter parce que j'ai perdu les soutiens nécessaires pour cela.
Ouais, Boris Johnson, donc trahi par Michael Gove, donc le ministre de la Justice, son fidèle allié, puisqu'ils ont fait campagne ensemble pour le Brexit. Ils se connaissent depuis deux décennies. On disait que les deux hommes formaient un tandem. L'un était la tête et l'autre les jambes. Les jambes, c'était Boris Johnson. La tête, Michael Gove, intellectuel. Et là, voilà, coup de poignard de Michael Gove, effectivement, avec cette grosse surprise. Donc, donc pour Boris Johnson. Vous avez une autre question, Kaba?
Oui. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, est donnée favorite parmi les 5 candidats déclarés. Alors, comment peut-elle être favorite alors qu'elle a mené campagne auprès de M. Cameron pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne?
Ah, c'est une excellente question, effectivement, Philippe Marlière, puisque Theresa May est donnée aujourd'hui comme étant la grande favorite, et en même temps, elle a soutenu David Cameron tout au long de la campagne pour que le Royaume-Uni reste dans l'UE. Comment va-t-elle faire maintenant pour négocier la sortie du Royaume-Uni? Pourquoi elle?
Alors oui, effectivement, elle apparaît aujourd'hui dans ce champ de mine qu'est le Parti conservateur comme l'une des grandes favorites, alors que le paradoxe, c'est la seule des candidates en liste qui a soutenu le status quo, c'est-à-dire le maintien dans l'Union européenne. Pourquoi néanmoins est-elle en position de force? Je crois d'abord, premièrement, elle a soutenu le maintien, mais elle l'a fait d'une manière extrêmement discrète, ne prenant pas part à la campagne. Par exemple, la différence de Cameron, qui effectivement était engagée dans cette campagne, elle est restée très en retrait. Je ne me souviens pas l'avoir véritablement vue faire des apparitions médiatiques importantes pendant ces semaines de campagne. Donc elle s'est protégée. La deuxième chose, c'est que sur une question extrêmement sensible pendant cette campagne, l'immigration, elle a, en tant que ministre de l'Intérieur, une position assez restrictive et sur cette question. Donc, de ce point de vue, elle aura le soutien de l'électorat conservateur pour qui effectivement, c'est une question importante. Et puis, troisième et dernier point, je crois que l'expérience gouvernementale à un poste important joue en sa faveur par rapport aux autres candidats qui en ont peu, moins, comme Michael Gove, ou les autres qui n'en ont pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, n'oublions pas que l'élection se joue à deux niveaux. Dans un premier temps, les députés, donc le groupe parlementaire, choisit deux candidats pour un duel, et ce duel se joue au vote des adhérents.
Oui.
Donc, les adhérents sont très conservateurs. Donc, ils vont probablement, pour les raisons que j'ai données, choisir Theresa May. Enfin, évidemment, l'élection n'est pas encore faite. Il peut encore y avoir d'autres surprises. Mais je crois que tout concourt à ce qu'elle soit choisie parce qu'elle représente l'expérience, la continuité et surtout la Grande-Bretagne et le parti conservateur ont besoin de continuité, de stabilité maintenant.
Ouais, et de quelqu'un qui, déjà, soit en mesure de ressouder le parti conservateur et ensuite de ressouder effectivement le royaume. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Marlière, politologue spécialiste de la Grande-Bretagne. Kaba, bonne journée à Conakry. Je m'excuse pour Désiré, je sais que ça fait plusieurs jours qu'il nous attend au standard. Il est à Lomé, il souhaite revenir sur le référendum d'il y a 8 jours concernant la construction d'un aéroport près de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Le oui l'a emporté et cet auditeur a plusieurs questions à nous poser. On y répondra, c'est promis, demain, Désiré, donc ne vous inquiétez pas. Vous continuez évidemment à nous appeler ici au standard, vos questions à la rédaction, on y répondra demain. Et vos réactions maintenant sur la victoire hier soir de l'équipe de France, surprenante victoire 5-2 face à l'Islande. La France est donc en demi-finale contre l'Allemagne, championne du monde. On vous donnera évidemment la parole dans 10 minutes. Vous continuez à poster vos réactions. Par exemple, Joseph nous dit « Félicitations à l'équipe de France qui se qualifie pour la demi-finale. Il faut néanmoins avoir le triomphe modeste. Je n'ai pas le souvenir d'une équipe de France qui a techniquement convaincu depuis le début de la compétition. Les Bleus ne feront pas le poids face à une équipe allemande aguerrie et mieux outillée que ce que les Bleus ont rencontré jusqu'ici. Rodrigue nous dit que depuis le début de la compétition, la France n'a rencontré que des petites équipes. Fafa nous dit que offensivement, les Bleus sont bons, ils peuvent marquer n'importe quelle défense, et vu la forme de Griezmann, de Payet et de Giroud, il faut renforcer maintenant la défense et le milieu de terrain en mettant Matidi à la place de Kanté et en remettant Rami à la place de Umtiti. Umtiti qui a fait d'ailleurs ses débuts hier pour une première sélection au sein de l'équipe de France. Bref, nous parlons de tout ça dans 10 minutes, juste après le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.
Claire Hédon.